France Inter, il est 13h. Le 13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, des blindés russes dans les zones séparatistes du Donbass. Pas d'acte de guerre contre l'Ukraine à ce stade, mais la tension très vive depuis hier soir et l'annonce de Vladimir Poutine, la reconnaissance de ces entités pro-russes en Ukraine. L'Union européenne va prendre des sanctions massives et robustes, dit le chancelier allemand. Autorisation suspendue pour le gazoduc Nord Stream 2. En France, le candidat Yannick Jadot appelle à un rassemblement devant l'ambassade de Russie à 17h. L'Ukraine, ce sera une longue page de ce journal. Ce sera aussi le vif de l'histoire avec Jean Lebrun, juste avant 14h. La campagne présidentielle sur France Inter à 48 jours du premier tour. Journée de débat entre candidats et jeunes organisée avec l'association Chemin d'Avenir à Radio France. Résumé de la matinée dans ce journal. Autre information de campagne, Marine Le Pen suspend la plupart de ses engagements. Le temps de réunir les 500 parrainages, mise en scène ou pas, au RN, on se dit très inquiet. Dans l'actualité encore, le policier soupçonné d'avoir tué sa compagne, arrêté ce matin. Nous irons aussi à Madagascar, la très grande île en proie à toutes les calamités entre cyclones, sécheresse et famille. Et famine, l'actualité plus légère, le foot Chelsea-Lille ce soir en Ligue des Champions de football. Et puis à 13h30, un quart d'heure de jeu avec un maître international, Maxime Vachier-Lagrave, champion du monde d'échecs Blitz et notre invité. Toutes vos questions à MVL 01 45 24 7000 et l'appli France Inter, rubrique Réagir. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Quelle sera l'ampleur de l'opération militaire russe en Ukraine? Nous allons connaître de nouvelles épreuves et pertes, dit ce matin le ministre ukrainien de la Défense dans une adresse à son armée. Hier, Vladimir Poutine a donc officiellement reconnu les deux « républiques » entre guillemets séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, Donetsk et Lugansk. Et il annonce, Poutine, l'envoi de troupes pour soutenir les pro-russes de ces deux régions. Nous allons à Moscou dans un instant. Le Donbass d'abord, cette région où se trouvent les deux entités séparatistes. Thibault Lefebvre et Jérémy Thuile sont en direct avec nous de Slaviansk, à une vingtaine de minutes de la ligne de démarcation avec les zones séparatistes. Thibault, ce sont des gens sonnés que vous avez rencontrés ce matin.
Oui, sonné et un calme apparent avant une possible tempête, une apparente tranquillité donc avec des gens autour de nous qui font leurs courses, qui boivent des cafés en terrasse, les enfants sont à l'école, les adultes travaillent, mais derrière la façade, l'angoisse transpire. Personne, Bruno, n'a vraiment dormi cette nuit. Tout le monde a suivi le discours du président Volodymyr Zelensky diffusé vers 2h du matin cette nuit et évidemment, on se prépare au pire comme Arkady et son fils de 4 ans, David.
J'ai commencé ce matin à faire mes valises. Je charge des talkie-walkie pour pouvoir rester connecté avec ma famille. Parce que si la guerre commence, nous n'aurons certainement plus de connexion. Et surtout, il faut penser à prendre ses papiers.
Vous avez bien entendu, Bruno, c'est si la guerre commence, car pour ce jeune père de famille, tout est encore possible. Et il est très compliqué d'anticiper l'issue d'un conflit qui tient en état de stress tout un pays depuis plus de 3 mois et qui va déterminer l'avenir de millions d'Ukrainiens.
La guerre est possible. Si les troupes sont mobilisées, c'est qu'elles vont être utilisées. Mais il n'y a pas 3 scénarios, le retrait, le statu quo ou l'invasion, il y en a au moins 33. Il faut se préparer à tout.
Paré à l'urgence donc, comme il y a 8 ans quand Arkady avait déjà quitté Slaviansk au moment où les séparatistes étaient rentrés dans la ville. Il s'était alors réfugié dans la ville de Dniepr, c'est au centre de l'Ukraine, à la limite des territoires russophones à l'est qui pourraient être convoités par Moscou, et de l'Ukraine ukrainophone tournée vers l'Occident.
Thibault Lefebvre, Jérémy Thuile en direct de Slaviansk. En Ukraine pour France Inter. La Russie appelle les autres pays à reconnaître les entités séparatistes en Ukraine. Faut-il rappeler que tout cela est illégal au regard du droit international? Selon les évaluations occidentales, 150 000 soldats russes sont déployés à la frontière avec l'Ukraine. Le Parlement russe était réuni ce matin. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter en direct de Moscou. 3 questions clés avec vous Sylvain au lendemain de cette allocution de Vladimir Poutine. D'abord, quel mouvement militaire depuis hier soir?
Alors, en signant le décret reconnaissant l'indépendance des deux républiques séparatistes du Donbass, Vladimir Poutine a aussi donné un ordre à son armée, hein, celui d'assurer ce qu'il appelle une mission de maintien de la paix sur place. Et on a vu donc effectivement des colonnes de chars, de blindés russes entrer en territoire du Donbass. Il s'agit, d'après la partie russe, d'aller protéger les populations civiles menacées parce qu'elles sont russophones, voire russes. Hein. Il faut savoir que la Russie a distribué à tour de bras des passeports russes dans cette zone ces dernières années. Il y aurait 900 000 citoyens russes. Vladimir Poutine a souvent parlé d'un génocide qui serait en cours dans le Donbass, dont on n'a jamais eu aucune preuve, mais c'est un fait pour lui. Alors, dans sa logique, il envoie ses armées protéger ses nouveaux pays amis, mais ses forces, pour l'instant, en tout cas, on ne les signale pas engagées aux côtés des séparatistes face à l'armée ukrainienne.
Alors, la reconnaissance des deux zones séparatistes s'accompagne d'accords d'entraide entre Moscou et les deux. En quoi consistent ces accords, Sylvain?
Alors, ces traités de coopération et d'amitié qui ont été ratifiés ce matin et par la Douma et par les deux parlements des républiques séparatistes, ils contiennent un article très important, c'est l'article 4 qui prévoit explicitement que les trois parties se doivent assistance, y compris militaire, en cas d'agression par un État étranger. Or, du point de vue des séparatistes, c'est le cas, hein, lorsque l'armée ukrainienne bombarde ses positions, comme c'est le cas actuellement. Donc, si ces accords, là aussi, hein, sont illégaux du point de vue international, il n'en reste pas moins, a priori, une base, là encore, pour assurer le narratif d'une intervention possible militaire russe en Ukraine. Reste à savoir maintenant dans quelle dimension.
Autre détail qui n'en est pas un, Sylvain Tronchet, les zones séparatistes ne représentent qu'une partie des régions de Donetsk et Lugansk en Ukraine. Où place-t-on les frontières, si j'ose dire, à Moscou?
Alors, on se posait la question jusqu'à il y a quelques instants. De ce point de vue, le ministre russe des Affaires étrangères, Andrei Rudenko, a semblé donner la tendance tout à l'heure en disant que ce serait dans leur limite administrative actuelle, c'est-à-dire frontière placée à la ligne de front, quoi, en quelque sorte, que les deux républiques de Donetsk et Lugansk seraient reconnues. Ceci dit, le dirigeant de la République de Donetsk a affirmé tout à l'heure que lui revendiquait toujours l'ensemble de l'ancienne région ukrainienne auquel Donetsk appartenait, notamment le port de Mariupol. Il ne occupe actuellement qu'un tiers de ce territoire. En cas d'intervention militaire russe, on pourrait malgré tout assister à une percée militaire vers l'ouest qui irait bien au-delà de la ligne de front actuelle. Les 150 000 soldats massés aux frontières de l'Ukraine semblent permettre une telle opération, ne se limitant pas au maintien de la paix, comme l'affirme actuellement la Russie.
Sylvain Tronchet, vous restez avec nous si vous le voulez bien. Question dans un instant sur la façon dont on reçoit les menaces de sanctions en Russie. À l'instant, cette déclaration de Vladimir Poutine auprès de nos confrères de l'agence France Presse, il affirme ne pas avoir l'intention de reconstituer un empire. Invité de ce journal, Andrei Gratchev, spécialiste des relations internationales, ancien porte-parole de Mikhail Gorbatchev. Bonjour monsieur Gratchev.
Bonjour.
Je voulais qu'on revienne avec vous, si vous le voulez bien, sur l'intervention télévisée de Vladimir Poutine hier. Est-ce que, comme beaucoup de spécialistes, même réalistes, froids, habitués à la Russie, vous avez été saisi par la virulence du ton et des propos?
Oui, faut bien dire que ce discours de Poutine a dû surprendre pas seulement du côté ukrainien, mais aussi du côté des citoyens russes, parce que d'une façon assez surprenante, Vladimir Poutine a choisi d'argumenter la position. Et sa prise de décision d'envoyer les troupes dans les deux régions séparatistes par toute une histoire de la constitution de l'État ukrainien, par les erreurs selon lui fatales qui avaient été faites par les dirigeants bolcheviques.
Au fond, à l'entendre, la constitution de l'Ukraine, la création de l'Ukraine en soi serait une folie, serait quelque chose d'artificiel. C'est ce qu'on retient notamment des propos de Poutine.
Voilà, donc de ce discours de Poutine, franchement assez étrange, on peut déduire que Poutine, de son discours d'hier, apparaît beaucoup plus nostalgique de l'Empire russe que même de l'Union soviétique, parce qu'il blâme les dirigeants soviétiques d'avoir constitué l'URSS sur la base des principes de l'autodétermination des peuples, qu'il considère, qu'il qualifie même de naïfs et déserronnés.
Et l'Ukraine.
Peut-être qu'en ce même moment, c'était le principe qui avait été annoncé par le président américain Woodrow Wilson à la sortie de la Première Guerre mondiale. Donc, ce qui est encore plus préoccupant, c'est que d'une façon générale, ce type de raisonnement pourrait aller au-delà du cas ukrainien.
Alors,
pourrait
c'est ça.
Concerner d'autres territoires de l'ancienne Union soviétique.
Mais déjà, restons.
Empire russe.
Restons sur l'Ukraine.
Donc, ce point de vue, l'ambiguïté qui a été provoquée par ce discours laisse inquiet et incertain concernant ses prochaines intentions.
Et sur l'Ukraine, Andrei Gratchev, le Premier ministre britannique Boris Johnson se dit convaincu que Poutine est déterminé à mener une invasion à grande échelle. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, on commence à être habitué à ce genre de déclarations venant pas que de Premier ministre britannique, mais aussi de la Maison-Blanche aux États-Unis. Je dirais que sur le court terme, si on devait juger la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, au lendemain de la décision et de l'annonce de Poutine, on peut dire que on a des chances d'éviter le pire. Pour le moment, l'action russe, après tout, se résume dans la formule de confirmer, après tout, la situation telle qu'elle existe depuis 2014.
On entérine une situation qui existe dans les faits depuis 8 ans.
Voilà. Et pour le moment, tant que enfin, un pied de soldat de l'armée russe n'a pas franchi les frontières de ces régions et de ces républiques autoproclamées. Oui. On peut dire que pour le moment, il s'agit en quelque sorte de la répétition de scénarios de la guerre russo-géorgienne de 2008.
Je voudrais insister également.
La Russie a profité, c'est vrai, à l'époque de la provocation peu réfléchi du président géorgien Saakashvili pour sécuriser, ce qui était le terme utilisé par les Russes, les deux républiques
Ossétie et Abkhazie
à l'intérieur de la
Andrei Gratchev, je voudrais insister, s'il vous plaît, sur un mot utilisé par la diplomatie française, par l'Élysée, qui a parlé de discours paranoïaque de Vladimir Poutine. Que pensez-vous de ce terme ? Est-ce qu'il y a des doutes parmi les spécialistes des relations internationales comme vous sur la santé mentale de Poutine ?
Bon, écoutez, là, je laisse la liberté des choix de termes et des épithètes aux auteurs de ce type de déclaration. Si vous voulez, je peux évoquer, par exemple, un exemple dans l'histoire de la guerre froide, comme nous apparemment sommes presque là-dedans. Déjà dans sa deuxième version, un entretien entre le président Nixon et son secrétaire d'État Kissinger. Et vous voyez ce que disait Nixon à son secrétaire d'État. Je veux que mes partenaires, mes adversaires, me prennent un peu pour le fou. Puisque de cette façon, ils vont se comporter avec moi d'une façon plus prudente.
Eh ben, manifestement, c'est réussi. Merci Andrei Gratchev d'avoir pris quelques minutes pour répondre à nos questions. Les diplomates américains encore présents en Ukraine, vous parliez de Kissinger, ces diplomates américains sont déplacés en Pologne pour raisons de sécurité. Parmi les derniers grands pays à réagir ce matin, la Turquie, la reconnaissance des républiques séparatistes pro-russes est inacceptable pour Erdogan. Hier à l'ONU, le moins offensif à l'égard de la Russie fut la Chine qui appelle les deux parties à la retenue. L'Ukraine demande à l'Occident de prendre des sanctions sévères contre Moscou. Alors justement, côté sanctions, on retrouve Angélique Boin à Bruxelles avec nous. Première réunion ce matin à Bruxelles. Angélique, une autre est attendue dans l'après-midi. Quelle est la tonalité ?
Oui, alors un premier échange ce matin au niveau des ambassadeurs a permis de confirmer la volonté unanime de ne pas rester sans réaction face à ce qui est considéré comme une violation flagrante du droit international et des accords de Minsk. L'unité là-dessus est sans faille, selon un diplomate européen. Reste donc à définir la nature de cette riposte. Des individus, des sociétés seront ciblés et des mesures de sanctions économiques sont sur la table. On ne sait pas à ce stade si Vladimir Poutine lui-même ou bien des membres de son conseil de sécurité seront visés. Mais la plupart plupart des États membres, dont la France et l'Allemagne, ne souhaitent tout de même pas dégainer les mesures les plus lourdes préparées en cas d'invasion militaire de l'Ukraine et gardées secrètes. On s'oriente donc vers un premier train de sanctions. Les Européens devraient garder des cartouches, comme l'a suggéré ce matin à son arrivée à Paris le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.
Ceci ne veut pas dire qu'aujourd'hui on va prendre toutes les décisions. Et je suis sûr que ça sera pris à l'unanimité. Hier, j'ai parlé avec le ministre ukrainien qui se trouve à Washington, avec la ministre britannique, avec le Canada, avec les États-Unis. On va faire ça d'une façon coordonnée, mais il faut agir vite.
Des décisions sont donc attendues dans la soirée, mais tout va dépendre néanmoins des discussions de l'après-midi entre ministres. Certains États comme les Baltes, la Pologne ou la Finlande vont en effet plaider pour taper vite mais aussi fort pour envoyer un vrai signal à la Russie.
Les sanctions seront massives et robustes, assure ce matin le chancelier allemand Olaf Scholz. Il ajoute que l'Allemagne suspend l'autorisation du gazoduc Nord Stream 2 entre son pays et la Russie. Il appelle parallèlement à des efforts diplomatiques entre occidentaux et russes pour éviter la catastrophe. Parmi les dernières informations, celle de ces dernières minutes, Londres convoque l'ambassadeur de Russie au Royaume-Uni. Ce matin, à l'ouverture, le principal indice de la bourse de Moscou était en baisse de près de 11%. On retrouve Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Vous êtes toujours là, Sylvain?
Oui.
On a parlé de sanctions à l'instant. Là. Est-ce qu'elles sont redoutées en Russie?
Alors, le discours officiel du pouvoir aujourd'hui, c'est de dire que, de toute façon, les sanctions seraient venues, l'Occident aurait trouvé n'importe quel prétexte pour les appliquer, et hier, lors de ce Conseil de sécurité qui a mis en scène cette décision de reconnaissance des républiques du Donbass, le Premier ministre Mikhail Mishustin est venu dire que la Russie pouvait résister à ces sanctions. C'est évidemment difficile à évaluer, mais il faut quand même prendre en compte plusieurs éléments. D'abord, la Russie vit sous sanctions depuis 2014, depuis l'invasion de la Crimée, depuis le Donbass, depuis également la tentative d'empoisonnement sur Sergueï Skripal, l'ex-agent double en Grande-Bretagne. La Russie est également assise sur un trésor de guerre, un fonds de réserve qui a été constitué par la manne pétrolière et gazière, qui peut servir d'amortisseur social. Elle a aussi les moyens de rétorsion. Elle l'a fait en 2014 en appliquant un embargo sur les produits agricoles européens qui est toujours en cours. Ceci dit, l'économie russe, vous l'avez dit, souffre déjà alors que les sanctions ne sont pas encore effectives. Le rouble est au plus bas depuis 6 mois. Les grandes banques russes, Sberbank notamment, a perdu près d'un quart de sa valeur en bourse. Et la crainte d'une inflation déjà forte, on est à presque 9% par an ici, d'une inflation qui deviendrait encore plus forte, inquiète tout le monde. D'ailleurs, le ministère de l'Agriculture, ce matin, a dit que la décision de limiter les marges commerciales sur les produits socialement importants, les produits de première nécessité, pourrait être prise avant la fin de la semaine.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, merci beaucoup. Puisqu'on en est à l'aspect économique, alors que le président ukrainien exige l'arrêt immédiat du gazoduc entre Russie et Allemagne, ce qu'annonce ce matin Olaf Scholz, cette crise va-t-elle faire un peu plus flamber le prix de l'énergie? Écoutez Jean-Bernard Lévy, le directeur général d'EDF, plutôt rassurant.
Il y a eu une forte augmentation des prix du gaz à l'entrée en Europe, et ceci a conduit à une forte augmentation des prix d'électricité sur le marché de gros. Cela dit, au sein des différents pays européens, chaque pays a eu sa propre réponse pour éviter que les prix de l'électricité augmentent de trop. Et la réponse du gouvernement français, c'est les prix de l'électricité en 2022 augmentent de 4%. Les prix ont augmenté le 1er février 2022 de 4%. Donc ils n'ont pas traduit l'intégralité de la hausse que l'on rencontre sur les marchés de l'électricité.
Autrement dit, le patron d'EDF ne voit pas de raison que ce nouveau contexte fasse grimper nos factures d'électricité. Il estime tout de même que la situation plaide pour l'indépendance énergétique de l'Europe. Jean-Bernard Lévy était interrogé sur France Info ce matin par Laurent Sénéchal et Naïla Latrousse. Les réactions des candidats à la présidentielle. Yannick Jadot appelle à un rassemblement de solidarité avec le peuple ukrainien cet après-midi à 17h devant l'ambassade de Russie à Paris. Il demande qu'Emmanuel Macron reçoive les candidats et les principaux partis pour discuter de cette crise. Fabien Roussel, décision extrêmement grave et dangereuse que celle de Moscou, dit le communiste. Jean-Luc Mélenchon reconnaît que la responsabilité est russe dans l'escalade, mais il ajoute l'annexion de l'Ukraine dans l'OTAN ne tardera plus. À droite, Valérie Pécresse sur France Inter, invitée du 7-9 ce matin, il faut condamner fermement ce qui est une violation du droit international. Autre commentaire, Éric Zemmour au micro France Inter de Maxence Lambrecq.
Jamais la France et l'Allemagne n'ont forcé l'Ukraine à faire appliquer ces accords de Minsk 2. Donc Vladimir Poutine en a eu assez et à la fin et a pris ses mesures de force. Je le reconnais volontiers et évidemment on peut le critiquer. Mais il faut comprendre. le porte-parole de Vladimir Poutine. Il a dit, quand Emmanuel Macron est venu à Moscou et qu'il a repris l'avion, il a dit « Emmanuel Macron est venu chercher un accord, mais cet accord est impossible, puisque Emmanuel Macron est membre de deux organisations, l'Union européenne et l'OTAN, dont il n'est pas le patron. » Voilà. Le problème, c'est que Emmanuel Macron n'est pas crédible. Emmanuel Macron n'est pas respecté par Vladimir Poutine.
Et là, des sanctions ne serviraient à rien.
À rien. Si vous voulez, la Russie, aujourd'hui, n'a pas besoin de nous. Elle peut se fournir chez le Chinois pour tout ce qu'elle désire. Ils ont une alliance privilégiée. Voilà le grand résultat de la politique américaine et de la politique de soumission de la France.
Éric Zemmour, ce matin au studio 104 de Radio France, comme la plupart des candidats qui répondent aux questions de 100 jeunes toute la journée. On y revient dans un instant. Encore une réaction à propos de l'Ukraine. Marine Le Pen, la décision russe est éminemment regrettable. Tout doit être fait pour retrouver la voie du dialogue. Mais elle accuse Emmanuel Macron d'avoir fait de la communication dans ses pourparlers avec Moscou. Mais c'est sur les parrainages qui lui manquent encore que Marine Le Pen veut axer sa campagne dans les jours à venir. On en a fini avec la page ukrainienne. À 10 jours de l'échéance, Marine Le Pen en est à 366 signatures sur les 500 requises. Le Conseil constitutionnel doit faire un nouveau pointage ce soir. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour.
Mise en scène ou réelle inquiétude, la candidate dit suspendre sa campagne tant qu'elle n'a pas le compte.
Oui Bruno, ce qui signifie que Marine Le Pen annule tous ses rendez-vous publics, conférences de presse, déplacements, mais pas les rendez-vous médiatiques. Dramatisation maximum, il y a feu dans la maison, dit un porte-parole. Et on n'est pas avare de détails pour raconter cette quête de dernière minute. On arrête tout, on ne fait plus que du phoning, raconte le plus proche conseiller de Marine Le Pen, qui insiste, elle aussi est au charbon, passe son temps au bout du fil, dans son viseur, les élus ruraux. Et signe que la séquence n'a pas vocation à rester secrète, l'équipe de campagne a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de Marine Le Pen à son bureau, hier au téléphone avec un élu, puis un appel au maire, face caméra, j'ai besoin de vous, leur lance-t-elle. Alors, coup de com pour tenter de reprendre la main sur le récit, tourner la page de la guerre avec Éric Zemmour. Faux, je préférerais faire campagne. S'il nous manque une signature, une seule, tout est fini. Coupe court un conseiller de la candidate, selon qui il manquerait une quarantaine de promesses de parrainage.
Au dernier pointage pour Éric Zemmour, c'était 291, 379 pour Jean-Luc Mélenchon. Nouveau pointage donc ce soir, on l'a dit, François Bayrou défend l'idée d'une plateforme via laquelle les maires pourraient parrainer des candidats, même éloignés de leurs options politiques. Quelques dizaines de maires, 120, rejoignent pour l'instant son initiative. Mais la campagne, c'est donc à Radio France qu'elle bat son plein aujourd'hui.
Des candidats et des jeunes.
Au studio 104 de la Maison de la Radio, 7 candidats répondent aux questions de 100 jeunes. Journée de débat organisée par France Inter avec l'association Chemin d'Avenir. Bonjour Simon Le Baron.
Bonjour.
Simon, vous êtes en direct du studio 104, pas très loin de moi, avec Laurent Maquetti. Les trois premiers à passer ont été Fabien Roussel, Éric Zemmour et Yannick Jadot. Que retient-on, Simon, de leurs interventions ?
Bien des échanges souvent constructifs, Bruno, sur l'égalité des chances, sur l'éducation, sur l'écologie. 45 minutes par candidat, avec pour chacun la même question pour commencer.
Bonjour Monsieur Roussel, je m'appelle Malo Houbre. Êtes-vous pour ou contre le droit de vote à 16 ans ?
Réponse courte, imposée, le candidat communiste essuie donc les plâtres.
Contre.
Ah non mais...
Parfait, c'est très bien.
J'aimerais bien pouvoir expliquer. Parce que là, ça fait raide quand même.
Vous pouvez prendre 10 secondes. Okay.
Mais parce que abaisser l'âge à 16 ans, c'est mettre la majorité à 16 ans. Ça veut dire aussi, en termes de droit pénal, que les jeunes de 16 ans seront jugés comme des adultes.
La mesure phare de Fabien Roussel, un revenu étudiant de 850 à 1000 euros par mois. Celle d'Éric Zemmour.
Votre mesure phare pour
vous
la
vous
jeunesse.
Vous savez, je pense que ma mesure phare, c'est plutôt le sens de mon engagement à la présidentielle. Arrêter l'immigration pour éviter que notre pays ne devienne le Liban grand ou un 58e État musulman. Aujourd'hui, mon combat est uniquement en vérité pour vous.
Une solution à tous les problèmes, mais quasiment pas de proposition concrète pour la jeunesse, mis à part le retour d'un certificat d'études à l'entrée en 6e. Qu'importe pour l'ancien polémiste, il réussit à mettre l'immigration dans le débat, pourtant loin des principales préoccupations des jeunes.
Selon un sondage de l'IFOP de 2021, 63% des mondes de 35 ans considèrent que la théorie du grand remplacement est raciste. Comment expliquez-vous que 55% des 50-64 ans pensent le contraire ?
La réplique de Yannick Jadot.
Parce que peut-être vous êtes plus ouvert sur la société, sur la réalité du monde. Quand le présent est très inquiétant, le réflexe, c'est de se dire « c'était mieux avant ». Tout ça, ce sont des théories nauséabondes.
Le candidat écologiste qui veut créer, entre autres, un revenu citoyen. Pas un jeune, dit-il, sous le seuil de pauvreté, 920 euros par mois. Mesure de pouvoir d'achat, la vraie grande inquiétude de ces jeunes, sur laquelle les quatre prochaines candidates seront donc interrogées cet après-midi.
Simon Le Baron, en direct du studio 104 avec Laurent Maquetti. Les quatre suivantes, c'est Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui ne suspendent que partiellement sa campagne. Jean-Luc Mélenchon a annulé sa venue. La journée est à suivre sur franceinter.fr et sur les réseaux sociaux.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
Il était recherché depuis 3 semaines. Le policier soupçonné d'avoir étranglé et tué sa compagne à Paris a été arrêté ce matin. Il s'est rendu aux gendarmes. Il était au domicile de son père dans le Var, Emmanuel Leclerc.
Oui, et c'est lui-même qui a appelé les gendarmes pour signaler qu'il se trouvait chez son père à Montméran dans le Var et qu'il souhaitait se rendre. Il a aussitôt été placé en garde à vue du chef d'homicide volontaire sur conjoint. Son père a ensuite expliqué à nos confrères de BFM TV qu'Arnaud Bonnefoy était venu lui dire adieu avant de se rendre. Il affirme que son fils ne comprend pas pourquoi sa compagne a disparu. Arnaud Bonnefoy devra pourtant bien s'expliquer sur la mort d'Amanda, âgée de 28 ans, découverte dans son appartement du 19e arrondissement de la capitale, dans sa salle de bain. L'autopsie a montré qu'elle avait été tuée par strangulation. L'enquête a montré que le policier avait pris la fuite dans la foulée, qu'il a retiré près de 1500 euros dans l'Oise avant de laisser sa voiture et son arme de service sur un parking d'un fast-food à Amiens. Où a-t-il dormi? Comment est-il descendu ces derniers jours pour voir son père dans le sud, qu'il avait appelé à se rendre vendredi dernier? On ne connaît pas encore les détails de sa cavale qui aura donc duré 3 semaines.
Nous allons à présent à Madagascar, l'immense île au large de l'Afrique, île qui doit affronter toutes les calamités. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Vous revenez de Madagascar, vous étiez en reportage, on entendra notamment votre long reportage dans Interception, l'émission de France Inter dimanche entre 9 et 10 heures. D'abord l'actualité à Madagascar, les Malgaches vont affronter, Rémi, dans les heures à venir, un deuxième cyclone en moins d'un mois.
Oui, c'est Emnati qui va frapper la côte est de Madagascar ce soir, moins de 3 semaines après Batsirai qui a fait 121 morts, à quelques dizaines de kilomètres de Mananjar, une ville déjà détruite, alerte Christian Payet. Il coordonne la plateforme d'intervention de la Croix-Rouge dans l'océan Indien depuis la Réunion.
Les populations n'ont pas eu le temps de se relever du dernier cyclone et des dernières tempêtes. Il y a beaucoup d'habitats précaires et ce cyclone va provoquer encore une fois des glissements de terrain, des inondations, des submersions côtières. Nous avions installé une base logistique sur place. Malheureusement, il va falloir démonter cette base logistique sous tente et attendre le passage du cyclone.
Et avec 2 autres tempêtes tropicales en un mois, en tout 550 000 personnes sont sinistrées dans le pays. La Croix-Rouge renouvelle son appel aux dons.
Alors, des trombes d'eau sur l'île, cela ne retire rien à une autre calamité. Vous en parliez ce matin dans le 7-9, Rémi, cette autre calamité, c'est la famine provoquée par la sécheresse.
Oui, c'est tout le paradoxe, Bruno, car en 2020 et en 2021, il n'a pas plu, ou presque, dans le grand sud de l'île, malgré des pluies irrégulières depuis décembre. On l'a vu au bord des pistes il y a quelques semaines, les champs sont parfois ensablés par les vents, les rivières asséchées, et malgré le travail des organisations humanitaires, Arduino Mangoni, le directeur adjoint du PAM, le Programme Alimentaire Mondial, alerte jusqu'à 1 million de personnes ont basculé l'an passé en situation de stress alimentaire.
Ce sont les gens que le Programme Alimentaire Mondial, les autres acteurs, le gouvernement, on n'est pas réussi à assister parce qu'ils n'ont pas été ciblés au cours des mois passés et progressivement ils sont tombés dans une situation d'urgence. On n'a pas réussi à renverser les tendances.
Alors le climat est en cause, mais le problème c'est surtout le retard de développement. Le président malgache a promis notamment l'an passé de bitumer la route nationale et de construire un pipeline pour acheminer de l'eau dans le sud.
Et votre travail Rémi, texte, photo, témoignage, on le retrouve également sur franceinter.fr. Un peu de légèreté pour finir ce journal avant d'accueillir le champion du monde d'échecs Maxime Vachier-Lagrave. J'attends vos questions au 01 45 24 7000. Mais les jambes avant la tête. Chelsea-Lille, 8e de finale aller de la Ligue des Champions de foot ce soir 21h. Parmi toutes les stars sur le terrain, côté britannique en particulier, intéressons-nous au gardien de Chelsea, Edouard Mendy, qui enchaîne les titres ces derniers mois, Jean-Pierre Blimeau.
Il est bien loin le temps où le jeune Edouard Mendy cherchait du travail alors qu'à 22 ans, son club de l'époque, l'AS Cherbourg, était relégué dans les joutes régionales. 8 ans plus tard, il vient de connaître 2 années fabuleuses, de Reims à Rennes puis de Rennes à Chelsea. Il a gagné la Ligue des Champions en mai dernier, puis la Super Coupe d'Europe, la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal et enfin le Mondial des clubs. Edouard Mendy.
Beaucoup de bonnes choses sont arrivées récemment, évidemment. Je me réjouis de tous ces succès, aussi bien avec l'équipe nationale qu'avec Chelsea. Mais je n'ai pas le temps de fêter tout ça. J'essaie de rester concentré et j'aurai le temps de fêter tout cela à la fin de la saison.
Édouard Mendy aura 30 ans dans une semaine. Il peut se permettre de donner quelques conseils aux jeunes footballeurs qui, comme lui, peuvent connaître des moments difficiles.
Je peux juste leur dire que s'ils travaillent toujours et encore, ils peuvent avoir confiance en leur travail. Et lorsque vous avez une opportunité de montrer ce que vous savez faire, il faut la prendre, la tenir. Trouver un club, c'est déjà un bon début. Mais progresser, c'est le plus difficile. La principale compétition, c'est avec soi-même. On doit être meilleur que la veille et toujours vouloir s'améliorer.
Le talent et le travail peuvent donc mener au sommet, car Édouard Mendy a été désigné meilleur gardien de l'année 2021 par l'UEFA et par la FIFA. Londres, Jean-Pierre Blimeau, France Inter.
Chelsea-Lille, coup d'envoi 21h, tout comme l'autre match de ce soir, Villarreal-Juventus de Turin. La météo dans un instant.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
France Inter aime...
Les Poings desserrés, un film de la cinéaste russe Kira Kovalenko.
Ade ! Ade !
Dans une ville d'Ossétie du Nord, Ada, une jeune femme en quête d'émancipation et de liberté, tente d'échapper à une famille qu'elle rejette autant qu'elle l'aime. Pris un certain regard au Festival de Cannes, Les Poings desserrés, le 23 février au cinéma, un film France Inter.
Le temps de ce jour.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est gris au nord, c'est ensoleillé au sud.
Oui, sur la moitié nord jusqu'au Limousin, beaucoup de nuages, quelques pluies. On a des éclaircies qui reviennent quand même sur le nord de la Bretagne et la pointe du Cotentin. Toujours du vent près de la Manche, jusqu'à 80 km à l'heure. Entre l'Aquitaine, les Alpes et la Méditerranée, là c'est ensoleillé. Toujours du vent en Méditerranée, jusqu'à 70 à 90 km à l'heure. Prudence sur le nord des Alpes, le risque d'avalanche est encore fort cet après-midi. Les températures sont plutôt douces, 8 degrés à Nancy, 12 à Amiens, Caen, Limoges et Lyon. 13 degrés à Paris, 13 aussi au Sable de 15 à Agen, à Marseille et 18 à Montpellier ou Bastia. Et puis demain, le vent s'essoufflera enfin.
Elodie Calac, Météo France, merci pour cette nouvelle. 13h31.
France Inter, le 13-14. Bruno Duvy.
Il fait partie de ces personnes que l'on appelle par leurs initiales MVL. En décembre, le français Maxime Vachier-Lagrave est devenu champion du monde d'échecs en mode blitz, des parties ultra rapides. Cela fait quelques années qu'il est parmi les tout meilleurs mondiaux. L'année dernière, il a terminé deuxième du tournoi des candidats qui désigne le challenger de l'indétrônable champion du monde en partie classique, Magnus Carlsen. MVL repart bientôt en tournoi, Belgrade début mars. Le prochain tournoi des candidats se tiendra cet été et il fait étape aujourd'hui. Nous en sommes très heureux dans les studios de France Inter. 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions à un grand maître international d'échecs. Bonjour Maxime Vachier-Lagrave.
Bonjour à tous.
Merci d'être dans nos studios. Vous dites dans votre autobiographie qu'une de vos forces, c'est la gestion du temps. Ça veut dire quoi, la gestion du temps ?
Et comme vous l'avez bien dit, il y a différentes cadences dans les parties, donc notamment des parties ultra rapides, mais de manière générale, ça veut dire qu'il y a un temps limité pour les joueurs. Et donc, quand je dis que la gestion du temps est un point fort pour moi, ça veut dire que je vais jouer en tempo, de façon assez rapide et de façon à utiliser justement ce temps pour mettre une pression sur mes adversaires. C'est une de mes grosses armes.
Et je me dis aussi que c'est une façon de prendre la bonne décision au bon moment, peut-être le bon risque au bon moment face à des adversaires qui, eux, peuvent être paralysés et ne pas savoir prendre de risques, disons-le comme ça.
Alors bien sûr, ça joue. C'est-à-dire que si je vois que mon adversaire manque de temps justement parce que j'ai su imposer un rythme, je vais pouvoir prendre des décisions peut-être un peu plus risquées en comptant sur son manque de temps pour faire la décision. Et puis bien sûr, quand on parle des parties très rapides, des parties blitz, ça fait aussi partie de mes qualités de jouer encore plus vite que l'adversaire, donc de finir avec une marge de sécurité, en fait. J'aime me laisser une marge de sécurité pour finir la partie sereinement pendant que mon adversaire n'a plus de temps à sa disposition.
Allons-y, c'est parti blitz, c'est quoi ? C'est 5 minutes, c'est ça, maximum ?
C'est en gros, c'est 5 minutes par joueur, ouais.
Mais comment ça marche ? Comment est-ce qu'on peut faire une partie d'échecs, surtout à votre niveau, en 5 minutes ?
Alors, bien entendu, les parties classiques vont être de meilleure qualité en général, okay. Mais c'est possible, en fait, pour moi, de prendre la bonne décision après 3 secondes de réflexion. Ça, ouais. C'est pas un problème. Donc, c'est pour ça qu'on arrive... Enfin, c'est pas toujours un problème. C'est pour ça que j'arrive à faire des très bonnes parties en 5 minutes. Mais même, il y a des cadences qui sont encore plus rapides sur Internet, notamment, où on peut faire des parties en 1 minute.
En
1 minute.
Et donc, dans un délai aussi court, on sait évidemment quelle ouverture on a. Ça va de soi, mais on a une idée des 10 premiers coups, disons-le comme ça.
Alors bien sûr, j'ai une idée des premiers coups. Après, ouais. Ça va dépendre évidemment de mon adversaire, ouais. Mais j'ai toute une base mémorisée dans ma tête pour pouvoir gérer le début de la partie. C'est ensuite, en fait, en milieu de partie, que je m'appuie évidemment sur des schémas que je connais, évidemment, à force d'années d'expérience, pour pouvoir prendre les bonnes décisions rapidement. Parce que, évidemment, si je découvrais une position complètement, ce serait très difficile. Ouais. De prendre la bonne décision. Et voilà, et ça tout au long de la partie, il faut imprimer un tempo. Bien sûr, il y a des erreurs, hein, ça c'est pas. Mais il y a des erreurs également en partie longue, c'est ça qui est fascinant dans les échecs, c'est que ça fait 25 ans que j'y joue, ça fait 200, 300 ans que c'est étudié sous les formes modernes, dont 20 ans avec les plus puissants logiciels et ordinateurs à notre disposition, et on est loin d'en avoir fait le tour.
Ça, c'est dingue. Allez, le standard. Jean-Philippe est avec nous. Bonjour, Jean-Philippe.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler. Question pour vous, Maxime Bachier-Lagarde.
Oui, bravo France Inter, bravo NVL. Je voulais savoir sur une partie de 5 heures. Évidemment, il y a des moments où peut-être il ne pense plus à sa partie. À ce moment-là, à quoi il pense, par exemple? Et puis, comment il se remet dans sa partie?
Oui, bonjour. Alors, en effet... C'est vrai que c'est un grand débat, c'est-à-dire sur une partie de 5 heures, c'est impossible de rester concentré tout ce temps-là, et au contraire, c'est même contre-productif d'essayer oui. de garder sa concentration complètement. Donc moi, ce que je fais, c'est déjà, quand c'est pas à moi de jouer, je me repose soit devant l'échiquier, mais le plus souvent en salle de repos, et donc je vais déconnecter de la partie, et je peux, tout en ayant un œil dessus, mais je vais pouvoir penser à, je sais pas, une série que j'ai vue la veille, un match de foot.
De l'OL, puisque vous êtes fan de l'OL.
Donc peu importe. Et bien sûr, là où c'est ennuyeux, c'est si revenu à ma table, je vais déconnecter. Donc dans ces moments-là, ça peut arriver, je déconnecte 5-10 minutes. Généralement, c'est justement en regardant la pendule et le temps qui me reste que je vais reconnecter. Mm-hmm. Et après, le switch se fait de façon quasi immédiate.
Question de Stéphane pour vous en ligne. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Soyez le bienvenu.
Ben merci beaucoup de votre accueil. Déjà, je voulais féliciter Maxime parce qu'il nous fait rêver. Et voilà, donc c'était déjà des félicitations et remerciements. Et puis, j'avais une question concernant les tournois d'échecs. Il n'y a toujours pas de mixité. Les tournois sont toujours séparés, hommes et femmes. Et je ne vois pas de raison objective à ça. Et je voulais savoir si lui, il avait une opinion là-dessus.
Alors bonjour et merci déjà. Donc... Alors, il y a une mixité dans le sens où les tournois hommes sont en réalité des tournois open qui sont ouverts aux femmes. Et donc, certaines joueuses, notamment Judith Polgar ou Yifan, ont souvent participé à ces tournois-là. Et il y a une catégorie de tournois réservés aux femmes. Et c'est simplement parce que à l'heure actuelle, les meilleures joueuses, donc hormis Judith Polgar, n'ont jamais atteint, par exemple, le top 10 mondial. Mmh. Donc, en gros, si elle concourait, par exemple, pour le titre mondial, elle n'aurait absolument aucune chance de l'obtenir en Open, hormis Judith Polgar, qui, justement, a pu jouer un tournoi de championnat du monde, qui ne l'a pas emporté, elle a dû finir quatrième. Mais voilà, donc, à l'heure actuelle, il y a encore nécessité d'avoir des tournois pour les femmes, notamment parce qu'il y a moins de joueuses et que donc
pourquoi il y a moins de joueuses? La toute petite expérience des échecs, c'est les 2-3 tournois auxquels j'ai accompagné mon fils, j'ai été affolé par la proportion, enfin le rapport homme-femme. Il y a, je sais pas, 80 joueurs garçons, s'il y a une dizaine de filles, c'est le maximum.
Ouais, bien sûr, ça c'est regrettable. Après il y a,
vous l'expliquez comment?
Alors c'est à la fois sociétal, ouais. Enfin, c'est difficile pour moi d'expliquer ouais. ce fait-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits en la direction justement d'accueillir plus de femmes dans les clubs, plus de joueuses dans les tournois, qu'elles s'y sentent bien, évidemment. Ça, il y a toujours beaucoup de progrès à accomplir de ce point de vue-là. Je pense que les choses vont dans le bon sens. Maintenant, ce serait bien de le concrétiser par les chiffres.
Jean-Robert, autre question au standard. Bonjour Jean-Robert.
Bonjour France Inter, bonjour Maxime, tu te souviens sans doute pas de moi, mais j'ai été connu au championnat d'Europe en Espagne, à l'époque où tu étais coaché par Eric Birmingham. Moi je coachais Mathieu Rigolo. Moi je voulais te poser la question suivante, justement je me rappelle de ton niveau à cette époque, qui n'est pas du tout celui que tu as maintenant, et je voudrais savoir qu'est-ce qui a été le plus gros déclencheur de ta progression.
Maxime Bachier-Lagrave.
Oui, alors, en fait, j'ai eu une progression assez linéaire pendant un moment, donc forcément, voilà, à 10 ans, évidemment, je n'avais pas le niveau que j'ai actuellement.
Vous avez commencé à 5 ans, hein, c'est ça ?
À 5 ans, tout à fait. Et donc, voilà, je considère que j'ai été bien entouré de manière générale par mes entraîneurs, que, voilà, par ma famille également, que j'ai ensuite fait les bons choix de carrière.
Il n'y a pas eu un déclic, quelque chose de
alors,
un passage clé ?
Il y a eu peut-être un déclic qui a fait suite à une stagnation, en gros, dans les 30-40 meilleurs joueurs du monde, oui. Entre 2010 et 2015, on va dire. Et c'est à partir de 2015 que j'ai réussi à m'installer durablement dans le top 10 mondial.
Et c'est quoi ? C'est un peu plus d'entraînement ? C'est ce que vous nous expliquiez tout à l'heure, connexion-déconnexion, que vous maîtrisiez mieux, par exemple ?
Non, c'est plus d'entraînement. Évidemment, je dois également beaucoup à mon entraîneur actuel, Étienne Bagro, qui a su voilà, solidifier... mes
la
débuts
base,
de partie,
ouais.
Voilà, mes bases pour justement être capable non seulement de rivaliser mais également de, voilà, de battre mes adversaires. Donc maintenant, depuis quelques années, je mets en place une stratégie tout terrain, donc avec une préparatrice mentale, évidemment mon équipe échiquienne, un préparateur physique, voilà, pour ne laisser aucun détail au hasard.
C'est combien de personnes l'équipe autour d'un joueur de votre niveau?
Moi, je considère que j'ai une équipe de 6-7 personnes.
À plein temps ?
Au moins 4 à plein temps.
Est-ce que vous rêvez de parties d'échecs quand vous dormez ? Vous demande Karim sur l'appli France Inter.
Alors, non, je...
Bon.
Enfin, je me souviens pas de mes rêves, donc, de manière générale. Donc, peut-être que je rêve d'échecs. En tout cas, je pense échec. Ça, c'est sûr qu'à tout moment de la journée, je peux être en soirée avec des potes, je peux être en train de regarder un match de foot. Si à un moment, je vois une position qui m'intéresse, et ça peut venir complètement par hasard, je vais être obligé d'y penser, même ne serait-ce que 2-3 minutes, avant de reconnecter justement à ce que je fais.
Une position, une combinaison qui vous vient comme ça tout d'un coup ?
Ça peut arriver, ouais. Oui.
Quand vous disiez tout à l'heure, on n'en a toujours pas fait le tour des échecs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire justement qu'il y a des ouvertures qu'on n'a pas encore imaginées, des combinaisons qu'on n'a pas imaginées, ça veut dire quoi ?
Alors pour les débuts de partie, on a à peu près tout imaginé. Ouais. En tout cas, les plus grosses innovations se trouvent à partir du 10e, 15e, voire 20e coup, voire
d'accord.
Plus. Mais quand je dis qu'on n'a pas fait le tour, c'est que simplement... Par exemple, en tant qu'humain, c'est presque offensant de voir à quel point les ordinateurs sont plus forts que nous depuis 15 ans, mais surtout n'arrêtent pas de progresser. Donc on voit bien que voilà, un logiciel il y a 10 ans se fait atomiser par un logiciel d'aujourd'hui, tout en sachant que celui de 10 ans nous bat à plate couture. Donc ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'apprends énormément des logiciels quand je m'entraîne au quotidien.
Vous avez 31 ans, vous dites « je suis déjà dans la deuxième partie de ma carrière, j'ai encore 10 bonnes années ». Qu'est-ce qui fait qu'on décline aux échecs ? C'est quoi ? C'est la capacité de concentration ?
C'est ça, c'est la condition physique, la capacité de concentration.
Ça veut dire quoi la condition physique aux échecs ? Je ne doute pas qu'elle existe, mais ça veut dire quoi ?
Alors... Bon, alors, en plus, il y a l'aspect de mémorisation.
Ouais.
Donc ça, à un moment, on décline dans notre capacité de mémoriser. Et pour ce qui est de la condition physique, c'est simplement... Alors, ça se joue pas sur une partie, parce qu'une partie, même de 6 heures, c'est possible, évidemment, pour des joueurs surentraînés comme nous le sommes.
Ouais.
Mais sur la durée d'un tournoi, d'une compétition, donc chaque partie qui va s'enchaîner, la fatigue laisse des traces. Et le problème, c'est que oui, donc à partir d'un certain moment, la concentration finit par décliner. Et le problème, c'est qu'une erreur de concentration, c'est généralement fatal. Ça coûte 1,5 point, voire 1 point entier.
Il se trouve qu'aujourd'hui même, il y a une dépêche, 13h03, là, il y a quelques minutes, un Indien de 16 ans bat le champion du monde d'échecs, Magnus Carlsen. Alors moi, je ne vois que des lettres, je n'arrive pas à lire ce nom de famille.
Trainananda.
Voilà. Bon, il est battable, ce Magnus Carlsen, qui est champion du monde depuis 2013.
Bien sûr, je l'ai déjà battu. Donc là, alors je ne sais pas si c'est le joueur le plus jeune à l'avoir battu, c'est très possible.
Il a 16 ans.
Il a 16 ans. Et toujours est-il que ouais, il y a énormément de jeunes joueurs prometteurs qui arrivent, alors notamment d'Inde, d'Ouzbékistan, des USA, de Chine bien sûr, de Russie,
ouais.
Voilà. Et on espère également de France. Voilà, bah on a par exemple Alireza Feroja, voilà, qui est maintenant numéro 2 mondial.
Vous êtes deux très très bons en France.
Voilà. Ouais. Donc il y a beaucoup d'espoir et.
Et oui. vous, l'espoir, c'est d'y arriver à remporter ce tournoi des candidats pour défier le champion du monde, Magnus Carlsen?
Bien entendu. Donc ouais. Là, mon enjeu, ça va être de me qualifier au tournoi des candidats sur le prochain mois en mars. Et puis, de gagner ce tournoi des candidats, donc étape par étape. Mais en tout cas, je suis très motivé.
J'ai une question bizarre pour terminer. Nous sommes le 22-02-2022. Un palindrome. Vous, le matheux et le joueur d'échecs, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça se lit dans les deux sens?
Oui, oui. Non, je sais ce qu'est un palindrome. Ouais. Mais honnêtement, ça m'inspire pas grand chose.
Ouais.
mais j'aime bien toutes les curiosités mathématiques, mais celle-là.
Voilà, j'avais tenté ma chance.
Voilà.
Merci beaucoup, Maxime Vachier-Lagrave, d'être passé dans les studios de France Inter. Et bon courage pour les tournois à venir, et en particulier l'été prochain, ce tournoi des candidats. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
22-02-2022, ça vous inspire rien?
Non, mais j'ai entendu le mot capacité de mémorisation. Elle est grande dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, notamment quand il s'agit du souvenir de la Deuxième Guerre.
C'est dans 10 minutes, on y revient, on sera très sérieux. Le feuilleton une semaine avec Rémi Serre, ancien appelé de la guerre d'Algérie. Et tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Alina Fanoukoé.
Bonjour Bruno.
Ils viennent de sortir leur nouveau morceau intitulé « Premier incendie ». Le collectif Magenta est aujourd'hui à votre micro.
Magenta, anciennement Fauve, groupe pop à succès, est né pour créer une musique électronique inspirée des années 90-2000, la fameuse French Touch, qui a marqué leur adolescence. C'est tout naturellement qu'ils ont choisi de me parler de Music Sounds Better With You de Stardust, sorti en 1998. Alors Stardust, c'est du lourd. Le musicien Alan Braxton, le chanteur Benjamin Diamond, le producteur Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, et un clip réalisé par Michel Gondry. J'ai demandé à Magenta ce que ce titre représente pour eux.
C'est sorti, on était jeunes, très jeunes, trop jeunes pour se rendre compte vraiment de ce que ça représentait ou ce que c'était, mais ça reste peut-être quand même la bande-son de toute une période pour nous et toutes ces gens de cette époque-là, 98, la Coupe du Monde, mais aussi plein d'autres choses. MTV, c'est l'époque des clips, c'est l'époque de la musique électronique qui sort de certaines confidentialités pour devenir énorme avec Daft Punk. En fait, écouter cette musique, ça replonge à la fois dans toute cette époque-là qui est hyper marquante parce que c'est des années qui sont fondatrices pour des gens et nous, on avait quoi, 12-13 ans. Et en même temps, quand on l'écoute, ça a toujours le même effet. Tu parles de danse, tu l'écoutes aujourd'hui, t'as envie de danser. Nous, on avait 12-13 ans à l'époque, on regardait MTV, on n'était pas en boîte en train de danser, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand on le met, ouais, on a envie de danser toujours. Le son a pas vieilli, ce que ça fait, les sensations sont toujours là, et c'est ça qui est fou.
Magique dans ce track, que ce soit bon, évidemment le son, mais le clip, le fait que y ait plusieurs protagonistes de la scène French Touch qui se réunissent, puis en fait que ça fasse que finalement un seul titre, il y a ce côté justement un peu comète quoi, il est assez fascinant ouais, ce titre. Je pense qu'il nous a jamais vraiment quitté, et puis quand on s'est mis à s'intéresser à la musique électronique sérieusement il y a quelques années, et à se plonger dans la façon de faire, enfin dans la technique on va dire, ce titre est évidemment revenu très vite dans notre champ de vision.
I feel right. Music Sounds Better With You de Stardust, choisi donc, Aline, par le groupe Magenta.
Oui, et c'est l'unique single et tube de Stardust qui nous fait danser là sur nos sièges et qui porte bien son nom,
pas
Stardust.
Du tout, moi, je touche pas du tout.
C'est poussière d'étoiles, Stardust.
Oui.
Et qu'est-ce qui touche autant Magenta dans cette chanson encore aujourd'hui ?
Ce qui fait que le morceau te touche au début, c'est même pas la somme des détails techniques, alors c'est inconscient, c'est juste le feeling, le ressenti que ça fait au corps et à l'esprit. Mais quand à un moment on s'intéresse à cette musique et qu'on se dit qu'on va essayer de comprendre, et ben là on se rend compte de toute la richesse et tout
le génie de la chose, parce que,
et là on décortique quoi.
Et voilà, on a essayé de comprendre comment c'était fait pour essayer d'amener ça dans autre chose. On savait pas encore quoi exactement à l'époque, finalement c'est devenu Magenta. Mais oui, notamment le travail sur la voix, ça nous a fasciné. Je sais pas combien de temps on a passé à écouter ce track pour comprendre comment la voix avait été traitée et montée et éditée, parce qu'à l'époque il y avait pas d'ordinateur ou quasiment pas. Enfin, toutes ces choses nous fascinaient, et vous allez trouver ça peut-être un peu présomptueux, mais en fait au bout d'un moment on a compris.
Magenta, donnez-moi le secret, comment
C'est tout ce temps. Un clavier, un compresseur, en fait deux je crois, mais des trucs assez basiques mais qui maîtrisaient à la perfection. Et les gars, ils faisaient la musique avec leurs oreilles, pas avec un écran.
Music Sounds Better, quand ils disent ce track, ça veut dire cette piste, ce titre.
Ce disque.
Voilà. Je le dis pour Jean Lebrun et puis pour plein d'autres gens qui nous écoutent sûrement. Et ce titre a été repris par les Daft Punk lors de la tournée Alive 2006-2007 et par les Magenta eux-mêmes.
Oui, et leur version a été très chaleureusement saluée par Stardust, Magenta dont le nouveau single Premier Incendie est à découvrir. Le groupe passera notamment par le festival Musilac le 10 juillet, Bruno.
Et c'est vrai qu'on danse sur nos fauteuils à roulettes. Merci Alina Fadoukou et à
Merci
demain.
Merci, à demain.
Le feuilleton.
Mais qu'est-ce que tu me demandes là à l'époque où tu partais pour l'Algérie ? Tu savais pas ce que t'allais foutre, hein ? Tu savais pas !
C'était le premier épisode hier de notre feuilleton. Une semaine dans la vie de Rémi Serre, ancien appelé du contingent qui a fait la guerre d'Algérie. Dans moins d'un mois, ce sera le 60e anniversaire des accords d'Évian. Rémi Serre est au micro de Thibaut Cavaillet. C'est un paysan à la retraite. Il vit à Istricou, dans le Tarn. Il a 84 ans. Antimilitariste. Alors si aujourd'hui il est très actif avec son association 4ACG pour raconter les horreurs de la guerre, à l'époque il avait 20 ans quand il a été envoyé en Algérie, incapable de dire non, et donc il ne savait pas ce qu'il allait trouver sur place. Il a vite compris.
J'étais arrivé dans le village, il y avait 4 morts sur la place, là. 4 feux de la guerre, criblés de balles, ils avaient mis nus, là. Gradé, je passe un capitaine, un commandant qui fait un discours. Et qui dit à la population, voilà ce qui vous attend, si vous aidez les Feldaga ou si vous travaillez avec eux. Alors là, tu te dis, c'est vraiment la guerre ici. Moi, je n'étais pas tout seul, je ne suis pas un cas unique. Hein. On n'avait pas envie de faire la guerre, on n'avait pas envie de faire souffrir des gens, on n'avait pas envie de faire peur aux femmes et aux enfants. On avait compris qu'on était là pour défendre le colonialisme. On avait compris qu'on était là pour défendre des intérêts qui n'étaient pas les nôtres. Mais tu ne pouvais plus partir. Tu ne pouvais plus déserter. D'ailleurs, ça aurait été très mal vu, parce que ça aurait été un peu comme en 14. Tu sais, quand les gens quittaient le front, hein. Faut pas croire. Hein.
Il y a eu des tués pour l'exemple.
Mais exactement, moi, on n'était pas là. On dit qu'il y en a eu, mais moi, je ne l'ai pas vu. Il y en a qui l'ont fait. Il y en a quelques rares. Moi, j'ai lu le livre, là. Le gars, il est parti dans le maquis, mais ça a demandé une force, un courage qui... Moi, personnellement, je ne l'ai pas eu.
Vous n'avez jamais pensé soit à déserter, soit à retourner pour combattre avec les Algériens qui voulaient l'indépendance?
Non. Désertier, quand tu descendais à Tizi Ouzou pour aller faire des courses, là, tes courses, tu avais l'impression d'être en paix. Et alors, des fois, on en portait 3 ou 4 dans la ville. Et là, tu aurais pu te cacher, tu aurais pu ne pas remonter. Et après, qu'est-ce que tu fais après? Quand tu ne remontes pas, tu vas où? De Tizi Ouzou à Alger, prendre l'avion. Comment tu fais pour déserter? C'est pas possible, t'es dans un piège. Ceux qui ont déserté, c'est ceux qui ne sont pas allés. Il y en a quelques-uns. Il y en a qui se sont rendus à la police, qui ont dit « je ne veux pas y aller ». Donc, ils ont fait 2 ans de prison. Et encore, quand tu sors, on te dit « tu veux y aller maintenant ?» Tu ne veux pas y aller, tu retournes en prison. Ou alors, il y a des gens qui se sont cachés en Suisse, qui ont fait leur vie. Je suis allé personnellement à la rencontre, là-bas, parler de notre assaut. Ils avaient milité dans des syndicats. Ils avaient une maturité politique, ces gens. Ou c'était la prison, ou c'était la désertion. Quand tu étais là-bas, c'était fini. Tu ne pouvais plus partir. Après, tu me diras, j'ai eu une permission, quand j'ai été blessé, là, j'aurais pu ne pas y revenir. Mais bon, moi, j'étais pas prêt.
À 20 ans, on n'ose pas dire non, quoi.
Oui, oui. Aujourd'hui, je suis un peu contestataire, beaucoup, mais à l'époque, je l'étais beaucoup moins. Hein. Aujourd'hui, si je me retrouve à la même situation, il pourrait m'attendre. Hein. J'irai pas, tout simplement.
Rémi Serre, ancien appelé en Algérie, avec Thibaut Cavaillès, réalisation du feuilleton de Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Le vif de l'histoire, nouvelle chronique consacrée à l'Ukraine. C'est une mythologie qu'a réactivé Vladimir Poutine hier en annonçant la reconnaissance des « républiques » entre guillemets séparatistes pro-russes en Ukraine, les Ukrainiens fascistes. D'où vient cette idée? Vous nous aidez à comprendre, Jean Lebrun. Seconde guerre mondiale, été 41, l'Allemagne d'Hitler attaque à l'Est, c'est l'opération Barbarossa, l'Ukraine en est la première victime, et le début de ce qu'on appelle en Russie la grande guerre patriotique à laquelle Poutine se réfère sans cesse. Un moment ébranlé par l'assaut d'Hitler, Staline s'adresse le 3 juillet à tout le pays, camarades, frères et sœurs, mais il exclut de la communauté les nationalistes ukrainiens qui lui en veulent et pour cause.
La politique de répression que Staline avait menée dans les années 30 avait provoqué, notamment par l'utilisation de la grande famine, quelques 3-4 millions de morts. Alors Staline n'avait évidemment pas laissé s'installer une opposition construite dans les limites de la République soviétique d'Ukraine, et les nationalistes s'étaient réunis en deux organisations qui passaient beaucoup de temps à des disputes assassines dans l'exil, l'UNM comme Melnik et l'UNB comme Bandera. Elles surenchérissaient l'une sur l'autre et rivalisaient dans le refus des allogènes qui ne méritaient pas une place dans leur Ukraine. C'est ainsi que les Juifs, qui déjà n'étaient pas aimés par Staline, ne pouvaient attendre que des pogroms de l'UNB comme de l'UNM.
Les allogènes, ceux d'une origine différente. Quand la Wehrmacht pénètre en Ukraine, Jean, une partie des nationalistes croit pouvoir saisir l'opportunité.
Oui, il ne manque pas d'Ukrainiens pour accueillir les Allemands avec faveur, et ils sont assez nombreux à les guider dans les premières actions anti-juives qu'il ne manque pas de commettre de suite. Stepan Bandera, le chef de l'UNB, envoie immédiatement son second proclamer l'indépendance de l'Ukraine à Lvov dès le 30 juin 41. Les généraux de la Wehrmacht seraient satisfaits d'avoir à leurs mains un gouvernement local, des troupes auxiliaires, mais Hitler a d'autres projets pour l'Ukraine et il expédie bien vite Bandera en camp de concentration. Et il crée en Ukraine un Reichskommissariat qu'il fait fonctionner purement et simplement comme un outil de colonisation. Exploitation des ressources, travail forcé. Le Reichskommissar-Korps déclare un jour « Y aurait-il un Ukrainien digne de s'asseoir à ma table? Je l'abattrai aussitôt. » À terme, l'espace vital devrait être réservé à des fermiers allemands vertueux qui prospéreraient dans un espace écologique. En attendant, il faut faire avec des millions de prisonniers soviétiques, de juifs et de traînes misères dont il convient de se débarrasser le plus vite possible. Hitler, lui aussi, a son plan de la fin pour l'Ukraine.
Et cette brutalité suscite vite des résistances.
Des maquis, une armée même de nationalistes vont finir par grouper une centaine de milliers d'hommes qui en viendront, un moment du moins, à combiner la lutte anti-allemande au combat anti-soviétique. En parallèle, des partisans pro-soviétiques pourront se compter jusqu'à 50 000 qu'il faut ajouter, ou peut-être 2 millions de combattants ukrainiens de l'armée rouge. On parvient à un chiffre infiniment supérieur à celui des nationalistes en armes. C'est cette échelle qu'il faut garder en mémoire, en se souvenant aussi que l'Ukraine est tout entière occupée, ce qui n'est pas le cas de la Russie, et que s'y sont déroulées les plus grandes batailles peut-être de l'histoire, terre de sang, époque de fer.
Et les mémoires de tous les aspects de cette immense catastrophe sont difficiles à faire tenir ensemble.
1 million de juifs qui perdent la vie, vous savez, les premiers agenouillés au bord des fosses qu'ils ont dû creuser, ou bien allongés au fond, la Shoah par balle avant la Shoah par gaz. Les prisonniers soviétiques sans abri, à qui on jette du pain derrière les barbelés pour les voir se disputer. Les partisans qui traitent les nationalistes de collabos, les nationalistes qui se déchirent jusqu'à se combattre entre eux. Après la reconstitution de la République soviétique, les mémoires doivent s'aligner sur le modèle que Poutine voudrait aujourd'hui retrouver dans son unicité. Mais en 91, l'indépendance a été proclamée et depuis, c'est l'écartèlement. Ainsi, la polémique autour de la personnalité de Bandera est intense. L'homme a survécu à 45, les services secrets soviétiques l'ont assassiné en Allemagne. En 59, faut-il donner son nom à des rues? Faut-il célébrer l'anniversaire du 30 juin 41, date de la proclamation de son état éphémère. En 2018, la Rada, le Parlement de Kiev, accorde le statut d'ancien combattant aux nationalistes armés d'après 1941, à condition qu'il n'ait pas été compromis dans un crime contre l'humanité. Alors on pense ce qu'on veut de cette politique mémorielle, elle est discutable, mais elle est discutée après des élections démocratiques et face à une presse qui peut parler. C'est cela aussi que déteste Poutine. Les amendements de la Constitution décidés par lui en 2020 donnent au Kremlin le monopole de la vérité historique.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Après le flash de 14h, ce sera la Terre au carré autour du peuple des humains, l'histoire des peuplements racontée par la génétique.